Bonjour David, bonjour à tous. L'inscription de l'IVG dans la Constitution était très attendue par les militantes du planning familial. Vous entendrez une historique du mouvement dans les Deux-Sèvres. Le département vante aujourd'hui la qualité de son agriculture sur le salon parisien. Vincent Nori l'a constaté sur place ce matin. Reportage ensuite sur l'Hermione qui panse ses plaies causées par un champignon. La société Touarsaise Asselin s'y affaire alors qu'il faut lever des fonds pour un chantier coûteux. Les Restos du Cœur organisent leur collecte dans les magasins ce week-end. Le spectacle des Enfoirés, lui, diffusé ce soir. Des stagiaires du lycée Saint-Joseph de Bressuire ont œuvré en coulisses. Enfin, les Chamois jouent cet après-midi contre Marignane avec la possibilité de conforter leur deuxième place. Le Congrès va se réunir lundi à Versailles pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. La voie est libre après le vote des sénateurs. Un vote qualifié d'historique par bon nombre de personnes et notamment par les féministes. Christine Antoine est administratrice au planning familial des Deux-Sèvres. Elle savoure tout en restant vigilante, sachant que 130 centres ont été fermés ces trois dernières années.
Je suis une vieille militante féministe, donc ça fait tellement longtemps qu'on se bat. C'est vrai que l'IVG était inscrit dans la loi. Là, ça l'inscrit quand même, le droit à l'IVG s'inscrit quand même dans, un peu dans le marbre. Ça, c'est une avancée. Après, je veux dire, on peut avoir tous les droits du monde. S'il n'y a pas les moyens avec, rien ne bougera. Que les centres de planification puissent recruter, que les femmes puissent être accueillies dans de bonnes conditions, qu'il n'y ait pas des listes d'attente qui les mettent en difficulté en délai dépassé, que, etc., etc., qu'il y ait une information beaucoup plus importante qui soit faite auprès des femmes, auprès des jeunes. Plus on continuera à être nombreuses et nombreux à se battre là-dessus, je crois que plus les choses avanceront vite et que, voilà, que tout droit malheureusement peut être remis en cause d'une manière ou d'une autre et qu'il faut qu'on reste très très vigilante.
Christine Antoine du planning familial des Deux-Sèvres à propos de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Elle était interrogée par Patrice Bémanangy. Les Deux-Sèvriens en force sur le salon de l'agriculture. Si le département des Deux-Sèvres s'offre une belle vitrine avec un stand de 120 mètres carrés tout au long du salon parisien, c'est aujourd'hui spécifiquement que le département veut se mettre en avant avec les concours partenaires, notamment une forte délégation a fait le déplacement autour de la présidente. La collectivité a misé sur la gourmandise des visiteurs pour attirer l'attention et ce matin, Vincent Nori a interrogé Bertrand Ferron, le chef cuisinier du collège François-Albert à Celles-sur-Belle, était en pleine préparation.
Oula, j'ai fait fondre mon chocolat, le beurre fondu, donc j'ai préparé mes ingrédients. Donc on a de la farine de chanvre, on a des œufs, du sucre, je vais rajouter des cerneaux de noix, un petit peu de levure chimique, raisin sec et pour terminer un petit peu de noix de pécan. On est en train de préparer juste à côté des foisses perdues. Donc on va tremper dans un appareil avec un mélange de lait, œufs, sucre, bien trempé. Et ensuite, on va les faire poêler au beurre. Hein. Voilà, et on va servir ça avec une compotée de pommes et de poires.
On a du produit de Sévrien, là, évidemment.
Ah oui, bien sûr, oui, complètement. Là, hein. Là, le chocolat, donc ça vient de chez Yvelin. Ensuite, la foisse motaise. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hein. Donc là, on est vraiment un pur produit local, hein, bien de chez nous. Et puis après, les pommes. Là, les pommes, c'est pas ce qui manque dans les Deux-Sèvres. Hein.
Des produits certes de Sévrien et qui sont faciles à travailler.
Oui, complètement. Ben là, la pomme, là, on va faire une petite compotée caramélisée. Donc là, il n'y a pas plus simple. Ensuite, là, Kamel, il nous prépare un smoothie vitaminé. Donc avec donc jus de pomme, kiwi, banane, spiruline des Deux-Sèvres. Et on est sur du chanvre, là, pour avoir quelque chose de bien vitaminé et protéiné.
Et le département des Deux-Sèvres profite de cette journée du 1er mars pour lancer sa propre marque, Produits des Deux-Sèvres. Coralie Denou, la présidente, micro de Vincent Nori.
Alors cette marque de Sèvres, elle a une vocation, c'est de soutenir notre agriculture. Notre agriculture, elle est nourricière. Et que si on veut continuer à avoir des bons produits en circuit court, qui créent de l'emploi, qui créent de l'économie, qui crée une dynamique sur nos territoires, eh bien, il faut consommer. Et donc, rappelez que tous les Deux-Sévriens sont acteurs dans leur achat du quotidien. Et qu'en fait, soutenir l'agriculture, c'est déjà commencer par acheter local, par acheter Deux-Sèvres. Sauf qu'on se rend compte qu'il n'est pas si facile que ça d'identifier. Et que lire toutes les étiquettes quand on est dans un grand magasin, ben, ça peut être un petit peu long. Et donc, cette marque-là, elle a pour objectif de faciliter l'identification et notamment dans les grandes surfaces, 84% des Deux-Sévriens font leurs courses dans les grandes surfaces. Donc nous, on est à destination de ces personnes-là parce que c'est elles qu'il faut accompagner dans l'identification. Et donc cette marque, qui est très simple, qui sera apposée sur les produits, eh bien, va permettre de faciliter l'achat de Sévriens pour nos habitants.
La marque produit des Deux-Sèvres, lancée ce matin par Coralie Desnoux sur le stand des Deux-Sèvres au Salon de l'agriculture de Paris. L'Hermione Lafayette soigne ses mycoses et fait la quête pour reprendre le large. 17 ans pour une construction très soignée, 6 ans de merveilleuse navigation et puis stop, la panne. Le bateau L'Hermione est bloqué depuis septembre 2021 en cale sèche dans le port d'Anglet à Bayonne. Motif, des champignons dévorent le bois du vaisseau, cette réplique exacte de la frégate du général français au XVIIIe siècle. Aux premières loges des réparations, l'entreprise Thouarsais Asselin, dont les charpentiers avaient assemblé la coque initiale, ils sont retournés sur le chantier pour restaurer le carénage arrière, tandis que l'avant est assuré par les Bretons du GIP. Les explications très affûtées de François Asselin au micro-colline de Dominique Hérault.
Vous avez des masses de chêne sur la partie arrière et à l'avant de l'Hermione, hein, qui sont considérables. Parfois, vous avez jusqu'à 4 mètres de chêne empilés. Et ces endroits-là ne peuvent pas être drainés, puisqu'à l'origine, c'était construit comme ça. Ce qui fait que lorsque vous avez des infiltrations d'eau, hein, vous avez des endroits où des points d'humidité peuvent se former. Et s'ils ne sont pas ventilés ou drainés, eh bien, c'est un milieu très favorable au développement du mycélium. Le mycélium, c'est des spores de champignons microscopiques qui sont présents dans l'air. Lorsqu'ils se fixent sur de la matière organique, le bois de la matière organique, et qu'il y a confinement et un taux d'humidité parfait pour le développement, eh bien, le champignon se développe. Et c'est ce qui est arrivé, malheureusement, à l'Hermione, hein, sur la partie arrière et sur la partie avant. Donc, il a fallu entreprendre des travaux important, hein, de restauration. Quand c'est à l'intérieur de l'Hermione, c'est un petit peu comme vous avez un puzzle, il faut aller chercher au milieu du puzzle la pièce à remplacer, en évitant de démonter bien évidemment tout le puzzle. D'où des travaux délicats pour traiter le sujet effectivement généré par cette pathologie.
Une restauration qui impose donc la précision du Mikado, sauf qu'il s'agit de poutres de chêne d'un autre gabarit. Mais le chantier semble bien engagé. François Asselin.
On a, bien évidemment, avec la maîtrise d'œuvre, imaginé un système de drainage qui évitera de retomber dans ce que nous avons connu, malheureusement. Et puis, le plus grand challenge aujourd'hui, c'est de trouver des fonds. Parce que l'association Hermione ambitionne une remise à l'eau en 2025. Et donc, il faudrait mobiliser, effectivement, assez rapidement, beaucoup d'argent. Et si cette mobilisation n'arrive pas à se faire rapidement, eh bien, il faudra tout simplement étaler, c'est pas non plus une catastrophe, étaler les travaux sur beaucoup plus de temps.
Au total, le chantier approche les 10 millions d'euros quand la construction en avait coûté 25. Pour l'heure, la région, le département de Charente-Maritime et l'agglo de Rochefort s'impliquent, mais il reste à l'association Hermione Lafayette à mobiliser les 4,5 millions restants pour relancer le bateau sur les mers en 2025, c'est pourquoi elle lance sur Internet un appel aux dons du public, sans oublier le public américain, puisque le navire les raccroche à leur passé, car il renvoie à l'expédition de Lafayette au soutien de leur indépendance contre les Anglais. Des visites du chantier et une boutique en ligne permettent de collecter des participations non négligeables. Reportage de Dominique Hérault. Deux lycéennes de Saint-Jo ont participé au concert des Enfoirés. Maëline, 19 ans, et Canel, 18 ans, préparent un diplôme de technicien des métiers du spectacle et elles ont effectué leur stage dans les coulisses du spectacle des Enfoirés. La diffusion est programmée ce vendredi soir sur TF1, une expérience unique pour ces deux jeunes femmes, au micro de Vincent Nori.
On était en tant que stagiaires. Dans les costumes, beaucoup de retouches.
Pas mal de missions qu'on nous a confiées.
Les retouches principalement, quand on avait besoin de nous, il fallait qu'on soit là. Et on a fait une mise en place scénique au moment du show pour un tableau.
C'était une jupe avec des panneaux de 12 mètres qu'il fallait mettre directement sur la star. Et du coup, il fallait qu'on s'organise avec les accessoiristes et l'équipe couture.
Et la star, c'était qui ?
C'était Zaz.
Que vous a appris cette expérience ? Qu'est-ce que vous en tirez ?
Franchement, pas mal de choses. les qualités quand même qu'il faut avoir. La conscience que c'est pas un travail facile avec des horaires fixes. Que à tout moment, tu peux être demandé, qu'il n'y a pas vraiment de rythme, c'est quand même assez éprouvant. Mais après, si c'est un métier qui plaît, forcément, on ne regarde pas ce genre de choses.
Enfin, moi, ça m'a confirmé dans dans le fait que c'est ce milieu-là que je veux côtoyer, c'est ici qu'est ma place.
Les deux lycéennes bressuiraises, Canel et Maëline, ont participé à plusieurs soirées sur Bordeaux. Elles ont pu monter sur scène furtivement, mais l'ensemble restera un sacré souvenir pour les deux demoiselles.
Oui, on est monté sur scène au final.
Ambiance super aussi.
Oh oui, oui. Bah, du coup, on a pu aussi côtoyer les bénévoles. Du coup, c'est vrai qu'on a vu pas mal de monde qui travaillait là-bas et franchement, c'était trop bien.
C'est sympa aussi de voir la fourmilière que c'est. Je sais pas combien on est de techniciens, mais je pense qu'on doit au moins être 200. Je dis « on » alors que...
Vivement la programmation, vivement la projection maintenant.
Oui. Oui, c'est vrai que ça fait toujours bizarre parce qu'on est, dans les loges, donc on voit pas forcément ce que les autres ils peuvent voir. Donc avoir un retour écran, savoir « ah bah ça, on aurait pu le faire comme ça », peut-être voir des petites erreurs que d'autres ne pourraient pas voir ou juste dire « ah mais c'est parfait ».
Le spectacle des Enfoirés sera diffusé, je vous le rappelle, ce vendredi soir sur TF1. La collecte des Restos du Cœur se fait ce week-end dans les magasins. Les Chamois Niortais contraints de jouer cet après-midi, nous l'évoquions hier. Le match est avancé à 15h en raison d'un problème d'éclairage sur le stade René Gaillard. Nioraglo, propriétaire du stade, indique avoir mandaté son prestataire pour remédier à cette panne, mais ce dysfonctionnement n'a pu être résolu. À temps, de nouvelles investigations avec des moyens importants vont être menées, indique la collectivité. Reste qu'il y a un match important à jouer face à Marignane, un mal classé, alors que les Chamois compte 4 points d'avance sur le 3e. Il reste 12 matchs à jouer, 12 travaux attendent Philippe Insberger et ses joueurs.
Aujourd'hui, tu as encore 7-8 équipes qui veulent monter. Hein. On ne dit pas que dans 6, Sochaux, Dijon, Martigues, je ne sais pas encore lesquels peut y avoir, n'ont pas envie de monter en Ligue 2. Tout le monde a envie de monter en Ligue 2. Il y en aura deux qui en monteront. Qui monteront. Est-ce qu'on en fera partie? J'en sais rien. Est-ce que jusqu'à maintenant, on a fait ce qu'il fallait pour en faire partie? Oui. Est-ce qu'on sera capable, dans les 2 mois et demi qui viennent, de le faire pour le conserver, cet avantage? Je ne sais pas. Je souhaite, voilà. Et notre travail au quotidien, que ce soit sur le terrain, que ce soit psychologiquement, eh ben, il va dans ce sens.
Niort Marignane, c'est donc cet après-midi à 15h au stade René Gaillard.